Bonjour Damien, 7 jours d'actu, les animaux rois du Tarn-et-Garonne, les pêcheurs en colère et un témoignage poignant en fin d'émission, voici les quelques événements sur lesquels nous reviendrons. Dimanche 19 avril dernier avait lieu le 44e concours régional des vins du Sud-Ouest à Castelsarrasin dans la salle Jean Moulin. Dès 10h, une dégustation à l'aveugle a eu lieu. C'est pas moins de 200 dégustateurs qui ont profité des 500 échantillons blancs, rouges, rosés. Un classement prestigieux que nous rappelle le président de ce concours des vins du Sud-Ouest, qui est aussi le président de l'office de tourisme de Castelsarrasin, René Villeneuve.
Nous organisons avec l'aide de la confrérie des Capitouls, qui est partie prenante du concours régional des vins du Sud-Ouest. Il ne concerne pas que les vins du Sud-Ouest, mais aussi ceux de l'Aquitaine. Les gens qui viennent à notre concours sont des viticulteurs qui ont des difficultés d'écoulement de leurs produits actuellement, comme tous les viticulteurs de France. Donc, venir au concours, venir faire des concours et obtenir une petite médaille, ça leur donne un petit plus à la vente. Donc, voilà pourquoi tous ces 553 échantillons sont goûtés par 200 jurys.
Parmi ces 200 jurys, quels sont le panel des personnes représentées alors ?
Les œnologistes déjà, tous ceux qui peuvent venir, les viticulteurs, producteurs et tous les amateurs de vin. Chez nous, celui qui aime le vin peut devenir un excellent jury.
Une organisation en collaboration avec la mairie de Castelsarrasin et l'ordre des Capitouls qui sont là pour faire goûter les vins. L'histoire de ce concours des vins à Castelsarrasin que nous rappelle le maire et conseiller général Bernard Dagen.
Je crois que ces deux personnes, Pierre Boé et Pierre Monté, qui ont en 1966 repris autour des vins de la cave de la vie de Dieu un petit concours qui a fini par être aujourd'hui européen avec tous les critères juridiques qui vont avec. Je crois que, même sans vouloir le dire, dès cette époque-là, c'était une volonté de faire des vins de France, des vins de qualité, des vins spécifiques qui amélioreraient donc la rentabilité de ces produits agricoles. Et ils étaient des précurseurs, puisque aujourd'hui, c'est bien vrai, avec l'ouverture du marché des vins vers d'abord les pays du sud de l'Europe, et puis maintenant vers l'Australie, l'Amérique du Sud, c'est bien une concurrence féroce à laquelle nos agriculteurs et nos viticulteurs ont à faire face.
Nous avons réussi à nous faufiler à travers les dégustations proposées dans ce concours des vins du Sud-Ouest. L'un d'entre eux, venu de Montauban, nous a donné son sentiment après sa dégustation. Il nous donne le goût qu'il faut pour pouvoir goûter un bon vin. On l'écoute.
D'abord, il faut aimer le vin. Première chose, ça c'est indéniable, il faut aimer le vin. Après, comment on déguste un vin ? On va dire une théorie, une technique qui commence par un examen visuel, puis un examen olfactif, puis un examen gustatif, c'est-à-dire les yeux, le nez et la bouche. Et les trois arrivent à donner, on va dire, un aspect, une idée, un point de vue sur un produit. Nous, on a dégusté des gaillacs et des pacherinques, donc des pacherinques blancs secs dans des vinifications bien particulières sur des vinifications au fût. Donc évidemment, sur 15 échantillons, sur 20 échantillons, il y en a un ou deux qui sortent du lot parce qu'ils sont plus concentrés, plus aromatiques, plus sur des nez d'arômes de fruits, dans des techniques de vinification mieux élaborées. Et on se rend compte avec l'expérience qu'il y a des produits mieux que d'autres.
Vous l'avez sans doute observé, depuis mercredi dernier, les nouvelles plaques aux normes européennes, les plaques d'immatriculation ont vu le jour. Les nouvelles voitures ne pourront plus être immatriculées comme avant. Il faut rappeler que les anciennes plaques datent de 1950. C'est un nouveau système alphanumérique composé de deux lettres, trois chiffres et deux lettres qui verront donc le jour. Le département pourra rester présent sur les plaques pour ceux qui le désirent. Nous avons décidé d'avoir l'avis des concessionnaires puisque ce sont eux qui vont délivrer les nouvelles plaques d'immatriculation. Le concessionnaire Toyota La Ville, lui, se félicite de ces nouvelles plaques d'immatriculation qui vont changer la vie des concessionnaires, mais aussi des particuliers. On l'écoute.
C'est des sources de falsification, de fraude, etc., qui ne seront plus possibles. La voiture, elle est immatriculée pour avis. Je trouve que c'est bien. On livre la voiture, nous, en tant que professionnels, le jour où on la livre avec sa véritable immatriculation. Pour moi, c'est très bien aussi. On a pu aller faire les files d'attente au comptoir de préfecture, pour moi c'est très bien aussi. La carte devient orange, donc ce ne sera plus une carte grise mais une carte orange. Quand vous changiez les matriculations de voiture, vous aviez une nouvelle carte grise. Mais là ce sera pareil, vous allez avoir une carte orange qui va vous donner la pièce d'identité de la voiture pour toute sa vie.
Quelles sont les nouveautés de la mise en place de ces nouvelles plaques d'immatriculation? C'est Odile Fénérols, chef du service de la circulation à la préfecture de Tarn-et-Garonne, qui nous en dit un petit peu plus.
Nous n'avons eu aucune demande d'immatriculation de voitures neuves et ce n'est pas une surprise. Ce sur quoi nous avons travaillé, c'est que nous avions des demandes d'immatriculation de cyclomoteurs, et parce qu'il faut savoir maintenant que les cyclomoteurs sont immatriculés en préfecture. Ceux qui ont acheté un véhicule d'occasion, ils peuvent demander une conversion spontanée de leur immatriculation antérieure dans la nouvelle immatriculation. La date ultime, ce sera 2020. Les parlementaires ont voulu que l'identifiant départemental puisse continuer à figurer à l'arrière de la voiture, mais il faut savoir que c'est un identifiant départemental qui ne fait pas partie de l'immatriculation elle-même. Le 82, par exemple, fait partie de l'immatriculation. Là, le 82 ne fera pas partie de l'immatriculation. Hein. C'est juste une indication que je qualifierais d'un peu folklorique.
Cette nouvelle immatriculation va donc changer la vie des consommateurs. Camille Grulet, journaliste au journal UFC Que Choisir, qui a travaillé sur l'installation de cette nouvelle plaque d'immatriculation, nous informe que certes, cela va changer pour les particuliers, mais cela va aussi changer concernant le portefeuille des Français.
Enfin, déjà, il faut le dire, il était nécessaire parce que l'ancien devenait complètement obsolète. Il arrivait à saturation et puis il était trop technologiquement archaïque pour pouvoir suivre les développements de services sur Internet, etc. Pour le consommateur, ce sera plus simple dans la mesure où il n'aura pas à se déplacer en préfecture pour aller chercher sa nouvelle carte grise qui lui sera envoyée directement à son domicile. En fait, ce qui va se passer très concrètement, quand vous irez acheter un nouveau véhicule, le concessionnaire fera directement une requête de numéro en se connectant directement au système, au fichier national des immatriculations. Alors c'est donc plus simple. Le penchant de ça, c'est qu'il va falloir payer pour ça. En plus des taxes régionales habituelles, il faudra payer 2,50€ pour l'envoi à domicile, auxquels s'ajouteront 4€ pour les frais de fonctionnement de l'Agence nationale des titres sécurisés.
Pas d'inquiétude pour les voitures d'occasion. L'immatriculation ne sera effective que jusqu'en 2020. Dimanche dernier, le marché-gare de Montauban s'est transformé en véritable parc à chiens. Pas moins de 100 races de chiens étaient présentes pour le grand concours du plus beau chien du Tarn-et-Garonne. Organisé par la société canine du département, ce sont pas moins de 3000 visiteurs qui ont fait un tour au marché-gare pour découvrir les belles races, notamment, et la nouveauté de cette année, les races tibétaines. Le président de cette société canine du Tarn-et-Garonne, qui se félicite de l'engouement et du succès de ce grand événement qui a lieu chaque année, Christian Oustrière, pour lui, ce grand événement doit encore évoluer. On l'écoute.
C'est la 32e exposition nationale de Montauban, donc qui se situe dans le top, je dirais, des nationales de France, puisqu'à Montauban, on a plutôt décidé de faire un excellent national plutôt qu'un mauvais international. De plus, il nous manque des surfaces pour dépasser et arriver à un niveau international. Donc on se situe sur, je vous dis, le top 10 des niveaux nationaux. Toutes les races de chiens sont à peu près représentées sur le parterre de Montauban. Donc un gros effort sur beaucoup de chiens, je dirais chiens tibétains. Cette année, on a une centaine de chiens tibétains, type Lhasa Apso, Shih Tzu, des chiens qui sont extrêmement rares. Et donc on a fait l'effort. Un gros effort sur une grosse population de boxers et une grosse présentation au niveau des Léonberg et des Terre-Neuve.
Pour mieux se rendre compte de l'ambiance qui régnait au marché-gare de Montauban pour cette grande foire des chiens, nous allons entendre une éleveuse de chiens de race boxer. Elle s'appelle Marie-Aline. Et puis la nouveauté, je vous l'ai dit tout à l'heure, les chiens tibétains, c'est Jean-Paul Bréavoine qui, lui, est amoureux du chien du Tibet. On les écoute tous les deux.
La passion déjà du chien, du boxer. C'est un amour de plus de 20 ans. Et c'est une race qui est quand même assez particulière, une très attachante, de bons chiens de famille, qui adore les enfants, bon chien de garde également.
Est-ce que votre chien aujourd'hui est en concurrence parmi d'autres pour être le plus joli, non?
Ben oui, il devait se présenter en beauté sur un ring, on juge la morphologie, les allures, et bon, le meilleur gagne.
Je suis un amoureux des chiens du Tibet, et cette passion nous est venue à ma femme et à moi, lors d'un voyage en Espagne où on a rencontré un petit chien il y a une trentaine d'années, où le type prenait le chien dans son cageot, le présentait à la foule, le laissait tomber par terre, et puis finalement, pour pas que ce chien souffre, on l'a acheté. Et depuis ce jour-là, la passion des chiens est née. C'était quand même en 1976, donc ça fait plus de 30 ans qu'on est dans le chien. Depuis, nous sommes devenus de jeunes éleveurs amateurs, des vieux éleveurs amateurs, et ma femme est maintenant devenue déléguée pour tout Miget-Pyrénées, et même membre du comité du club des chiens du Tibet de France.
Parlez-nous un peu de cette race des chiens du Tibet, pour les gens qui ne les connaissent pas, qu'est-ce qu'ils ont de particulier ?
Ce sont des chiens qui sont déjà très attachants. Ce sont des chiens qui ne sont pas mordeurs, ce sont des chiens qui sont quand même relativement équilibrés. Maintenant, il faut savoir que dans ces races de chiens, il y a énormément de toilettages. C'est-à-dire que pour avoir un chien avec un poil long, il faut toiletter, laver souvent, ne pas sortir le chien quand il pleut, ne pas laisser courir le chien dans l'air pour avoir une très belle fourrure.
Comme dans toute compétition, un concours équivaut à un juge, un arbitre. Nous avons rencontré l'un d'entre eux, il est juge pour les spéciales de race. De toute façon, vous allez l'entendre, il va vous en dire plus sur les spéciales de race. Il s'appelle Patrick Deveil, il vient de Paris et il y a toute une panoplie de critères pour pouvoir désigner le plus beau chien de ce grand événement du Tarn-et-Garonne.
Je suis venu juger à Montauban, donc ce que l'on appelle une spéciale de race. Donc c'est un événement important, donc tout au moins pour ceux qui s'y présentent, est très importante, notamment pour l'obtention future d'un titre de champion de France ou éventuellement l'examen, le qualificatif qui sera donné au chien est très important pour la cotation du chien. À savoir que l'on peut, après une simple présentation, monter, la valeur du chien en quelque sorte, et l'amener d'une valeur 1 à 6, la valeur 1 étant la valeur de confirmation et 6 étant une élite. Ce sont des écrits qui définissent clairement comment sera fait le chien selon certains critères, la taille, le poil, l'implantation des oreilles, la forme des yeux, des dents, comment le chien se démarche, est-ce qu'il a beaucoup de poil ou non. Donc il y a un critère. Dans tous les cas, il faut s'en rapprocher et les gagnants du CAC s'en rapprochent de très très près.
Les pêcheurs sont en colère, vous l'avez entendu la semaine dernière. Ils dénoncent la baisse des quotas par la commission de Bruxelles pour la pêche de la sole et du cabillaud. Ils ont fait des actions de force en bloquant le port de Boulogne-sur-Mer de Calais et en tentant une opération escargot sur l'autoroute qui mène au tunnel sous la Manche. Après avoir rencontré le ministre de l'Agriculture, Michel Barnier, celui-ci leur a promis une aide financière pour compenser la perte des quotas, mais pas une remise en cause de la baisse des quotas. Certains pêcheurs, eux, ne veulent pas de l'argent. Ils demandent seulement à ce qu'on les laisse travailler en paix, on les écoute.
À Calais, nous avons consommé notre quota à 120%. On n'aura pas d'échange avant l'an prochain, donc on n'a plus le droit de travailler sur la zone, on n'a plus le droit de travailler.
On pêche du poisson, on le remet à l'eau alors qu'il est mort. C'est complètement aberrant.
C'est vrai que là, en ce moment, on n'y arrive pas. On fait des semaines pour rien au bout, des semaines complètes du lundi au samedi, et il n'y a rien qui vient au bout.
Un marin, c'est pas un assisté. Un marin, c'est quelqu'un qui veut travailler, qui veut naviguer. Et quand il va en mer, il y va pas pour filtrer l'eau, il y va pour pêcher. Pêcher pour la consommation humaine, c'est-à-dire pour nourrir les gens.
Problème des quotas qui oppose problème écologique. Des scientifiques dénoncent déjà effectivement le risque d'une perte à terme de l'élevage de sole et de cabillaud. C'est eux qui font pression auprès de Bruxelles pour limiter les quotas, car selon eux, cette faune aquatique dans le nord de la France est menacée si on ne prend pas des mesures radicales. On écoute ces scientifiques.
Les dernières observations de la communauté scientifique montrent que le recrutement 2009... est faible, voire très faible. Le recrutement, c'est l'arrivée des jeunes dans la pêcherie.
Il est sûr qu'on ne fera rien sans la science. C'est-à-dire que les recommandations scientifiques sont une base réelle avec laquelle on ne peut pas discuter.
Semaine très animalière, puisque nous allons du côté de Montclar de Quercy, au nord-est de Montauban, pour la fête du cheval. Un événement qui a lieu tous les ans, qui rassemble de nombreux visiteurs. Vous pouvez suivre des spectacles équestres, découvrir des anciennes professions comme les maréchals ferrants et aussi des personnes qui viennent présenter eux aussi leurs différentes activités. Nous avons vu un éleveur d'ânes venu de Grenade-sur-Garonne qui nous parle de sa passion pour cet animal. Vous allez l'entendre, l'âne et le cheval sont de grands amis.
Celui-là, mon clan, pour essayer de me refaire une cerise parce que je suis à la rue et que les ânes se vendent très mal, que les chevaux se vendent très mal. Que tout a augmenté et que l'on vend moins cher qu'il y a 10 ans en arrière. Je vendais un âne 400 euros il y a 10 ans, je le vends 200 euros cette année. Je me sens un peu à la fin de mon rouleau parce que j'ai 65 ans et que je ne vois pas des jeunes derrière moi qui prennent la relève.
Ce salon du cheval s'est donc terminé par un grand spectacle équestre dimanche après-midi. Nous avons rencontré l'un des participants à ce spectacle équestre. Il fait partie des voltigeurs de Provence, Christophe Chaussy, dont l'amour pour le cheval n'est plus à déclarer. Vous allez l'entendre, il va nous faire transmettre son amour pour le cheval.
Avec un numéro, on est 8 voltigeurs, donc voilà, et des enfants qui vont voltiger avec moi, qui ont entre 11 ans et 15 ans, quoi. J'ai un centre équestre, donc ils viennent apprendre à monter à cheval. Pour apprendre à monter à cheval, et au fur et à mesure, c'est vrai que j'ai une identité qui est le spectacle équestre, et il y a des gens qui viennent au centre équestre pour également aussi, pourquoi pas, un jour faire partie de la grosse équipe, les voltigeurs de Provence. À savoir quand même que cette écurie, enfin les voltigeurs de Provence, ils viennent de triompher donc avec mes élèves à Séville, au grand salon du cheval qui retrace 200 000 personnes. Le mois prochain, on est en Italie en gala. On va être en Espagne au mois de juin. On va être également à Méjane, en Camargue, pour le gros rassemblement des chevaux au mois de juillet.
C'est ici à Montclar, donc la fête du cheval. Est-ce que vous pouvez, pour les gens qui ne sont pas initiés, nous décrire le cheval ?
C'est un cheval qui rend homme. Et c'est à ça que je me suis rendu compte depuis tout petit, au fur et à mesure que j'ai progressé avec eux. Si vous êtes bien avec les chevaux, ils vont vous rendre le bien. Voilà.
Une organisation donc minutée, préparé par l'association qui gère cette fête du cheval. Robert Linas en est l'un des membres. Il nous rappelle l'histoire à Montclar de Quercy.
Oh, la fête du cheval, elle existe déjà depuis de nombreuses années. C'est un endroit où il y a toujours eu des chevaux. Avant, dans chaque ferme avait son cheval, quoi, disons, pour les menus travaux de la ferme. Hein. Et puis, bon, concours de circonstances entre gens passionnés, quoi, disons, et puis voilà, une fête de cheval est née à Montclar. On en cite, on a la place, hein, pour bien accueillir. Et donc voilà, c'est essentiellement cela, quoi. Hein.
Quelles sont les activités dans cette fête régionale du cheval ?
Alors le samedi est consacré à la foire aux chevaux. Il y a la maréchalerie, hein, bon, des maréchaux qui nous présentent leur savoir-faire. Donc vraiment assez extraordinaire. Et bon, il y a également les troupes de spectacle équestre qui s'entraînent, donc ça fait une animation sur la carrière. On peut venir en famille parce que pendant les deux jours, la manifestation est gratuite pour les enfants de moins de 12 ans.
Visite à Moissac maintenant, une ville de culture qui n'est plus à démontrer par son cloître, par son canal du Midi, mais aussi par son salon du chocolat. Le week-end dernier, c'était la fête des arts dans toutes les rues de la ville. Expositions en tout genre, sculptures, spectacles. Le président de cette association, Philippe Gigot, nous explique comment Moissac est devenue une ville des arts.
Il y a un passé quand même dans le domaine de l'art assez prononcé, assez marqué à Moissac. Cette fête des arts remonte à 13 ans. Il y a 13 ans, je n'étais même pas encore dans la région. La vocation, l'idée hein, de cette fête des arts émane hein, d'une volonté de la mairie de faire connaître les artisans d'art, de les soutenir, les artisans d'art donc locaux, hein, autochtones à Moissac. Maintenant, l'idée c'est de faire venir donc d'autres personnes, de créer une manifestation qui au fil des années prend de l'ampleur. On a quand même un marché d'artisans d'art donc au Hall de Paris où on a 32 artisans d'art. Des potiers, on en a une petite vingtaine. Des sculpteurs en sculpture monumentale, 5. On a une personne assez remarquable qui s'appelle Sébastopol, donc qui se promène tout le long de cette fête. Il est à lui tout seul, c'est un homme orchestre. Il reprend du blues des répertoires des années 30, 30 à 50, assez passionnant. On a des intervenants aussi divers et variés. Donc voilà, ça fait quand même pas mal de monde.
partenaire inconditionnel de la Fête des Arts, la péniche Le Portos qui vous transporte sur le canal du Midi et bien